Ma vie en bio, le rendez-vous 100% bio de Fréquence Terre. Frédéric Benoît.
Aujourd'hui, la vie en bio vous emmène voir les oiseaux. Mieux que ça même, nous allons apprendre à les attirer dans notre jardin. Avec nous, Gilles Leblay, naturaliste, photographe nature. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié un guide aux éditions Terre Vivante. Vous y donnez quelques recettes pour attirer les oiseaux dans son jardin. On y retrouve des éléments essentiels à l'épanouissement des oiseaux. Ce jardin parfait, vous l'avez fait. Il s'appelle Mon Jardin Paradis. Qu'est-ce qu'on y trouve ?
C'est simplement un espace créé à l'image de la nature. En fait. Donc à partir de là, de différentes observations que j'ai pu tirer un peu partout, lors de mes balades, de mes observations à l'étranger ou en France, j'en ai tiré ce que j'ai appelé des fondamentaux qui sont indispensables dans la nature pour attirer la faune et l'inciter à rester, en fait.
Un endroit où les animaux viendront s'épanouir, en tous les cas.
Voilà, en fait, c'est un oasis de biodiversité.
Quand on commence votre ouvrage, votre guide, parce que justement il s'agit de ça, de maintenir un équilibre de la biodiversité tout au long de votre ouvrage, nous commençons par la saison la plus froide, le mois de décembre, c'est l'hiver. C'est une période sensible pour les oiseaux. Racontez-nous, où est-ce qu'ils vont trouver leur nourriture en hiver ? Est-ce que c'est une bonne pratique de mettre des boules de suie avec des graines dedans qu'on accroche aux branches ou qu'on pose sur le bord de la fenêtre ?
C'est bien, il faut que ça reste naturel, mais c'est ce que j'explique aux gens quand ils viennent visiter le jardin ou les choses comme ça, parce que beaucoup de gens, en fait, continuent à nourrir les oiseaux en dehors de la période hivernale. Et en fait, il faut garder à l'esprit que le nourrissage est quelque chose de ponctuel en hiver, seulement lorsque les conditions climatiques sont extrêmes, c'est-à-dire une période de froid intense avec des chutes de neige, du gel prononcé, des choses comme ça. Il est utile qu'à ce moment-là. Et ça suffit.
Alors dans votre guide, on trouve un élément essentiel. J'ai découvert en même temps qu'il ne servait pas que pour la nidification, c'est le nichoir. Alors et j'ai vu aussi que vous fournissiez des plans. Il suffit d'une planche, de deux charnières, quelques clous, un marteau et une scie. Et ça y est, on a fait un nichoir. Pourquoi est-ce que vous lui donnez cette importance au nichoir ?
En fait, l'importance des nichoirs, on a trop souvent tendance à couper les arbres morts ou les arbres anciens, les vieux arbres. Et donc, dans ces arbres, il y a des cavités. Et ces cavités vont servir non seulement à nicher pour les oiseaux, mais ils vont servir aussi de gîte aux loirs ou à certaines chauves-souris, etc. Et donc, à partir du moment où on coupe ces arbres ou on les enlève du milieu, eh ben, il n'y a plus de cavités pour ces oiseaux, parce que certains oiseaux nichent à ciel ouvert, c'est le cas des fauvettes par exemple, mais il y en a d'autres, comme les mésanges, qui vont être des oiseaux qu'on dit cavernicoles, c'est-à-dire qui ont besoin de l'obscurité pour nicher. Entre autres, les mésanges, les gommes-mouches, les rouges-queues, la citelle, le torcol, bon j'en oublie bien sûr, mais j'en cite quelques-uns, et tous ces oiseaux ont besoin donc de ces cavités, d'où l'intérêt de construire des nichoirs, qu'on va adapter pour chaque espèce naturellement, parce que chaque espèce peut avoir des préférences, notamment au trou d'envol, etc.
Justement, je voudrais qu'on en parle. Parce que c'est
une autre histoire.
Non, ce n'est pas forcément une autre histoire, c'est la prolongation de l'histoire, parce que j'allais justement vous le dire, c'est quelque chose d'important, c'est le diamètre du trou de la porte d'entrée. Parce que n'importe qui ne rentre pas dans n'importe quel nichoir, en fait.
Non, en fait, c'est ça. Dans la nature, ils trouvent des cavités comme ils veulent, mais seulement il peut y avoir des concurrences entre espèces. Alors qu'à partir du moment où on crée un oasis, notamment dans son jardin, eh bien forcément, on peut jouer sur le diamètre du trou d'envol. Ainsi, pour certaines espèces, on va avoir du 26 mm, donc 2,6 cm pour la mésange noire, on va avoir 27 pour la mésange bleue, 29 pour la mésange charbonnière, 32 pour la citelle torchepeau. Et ainsi, en faisant ça, on permet en fait aux oiseaux de trouver
le trou à sa taille. Ce qui évite aux autres de venir les embêter parce qu'ils ne peuvent pas rentrer, par exemple. C'est au millimètre près et on attire une espèce plus qu'une autre.
Ça peut, voilà, tout à fait.
Voilà. Alors, et puis on voit dans votre livre justement cette illustration des mésanges dans votre jardin. Je suppose que c'est dans votre jardin.
Oui,
Où on voit les mésanges occuper un nichoir et puis après on voit les petits sortir du nid, la maman nourrir avec des chenilles. C'est, comme je vous dis, vous êtes photographe et c'est un livre magnifique.
J'ai fait un suivi en fait depuis de nombreuses années.
C'est ça, il y a une histoire.
Et ça n'avait jamais été fait jusqu'à présent, c'est-à-dire parler du nichoir, à partir du moment, même en hiver, quand il sert, parce qu'on n'a pas cité ça, mais il sert également de dortoir ou de chambre à coucher pour les oiseaux, puis pour d'autres aussi. Donc à partir de l'hiver, quand il commence à chercher des cavités pour le printemps, jusqu'au moment où les jeunes s'envolent, le nichoir a un rôle important. Et donc j'ai décidé de le montrer ça, et ça raconte l'histoire d'un nichoir au fil de l'année, quoi.
Vous nous conseillez d'installer les nichoirs à l'entrée de l'hiver?
Oui.
Voilà, hein, donc ça
parce
c'est
qu'en fait, le nichoir va s'intégrer au milieu, et les oiseaux vont avoir le temps de repérer les cavités, notamment pour dormir pendant l'hiver, parce que ces oiseaux cavernicoles, c'est le cas des mésanges, notamment une mésange charbonnière, elle va rentrer dans un nichoir, elle va passer la nuit, mais toute seule. Alors que d'autres, comme les troglodytes, par exemple, ils pourront être à plusieurs dedans. Donc ce sera plutôt, au lieu d'être une chambre à coucher, ce sera plutôt un dortoir. Voilà, donc c'est tout l'intérêt de les placer à ce moment-là, mais ils ont déjà repéré des cavités, et au moment où ils vont commencer à marquer leur territoire au printemps pour attirer les femelles et tout, ils sauront déjà certains endroits où il y aura ces cavités et ces nichoirs. Donc ils viendront les occuper d'eux-mêmes si l'endroit leur convient.
Alors je me suis aussi, on va terminer le chapitre, mais je me suis retrouvé dans ce cas de figure l'été dernier, et j'ai offert un nichoir à quelqu'un et je ne savais pas du tout comment le placer. Je me suis dit, tiens, on va choisir déjà une hauteur suffisante pour que les chats, par exemple, ne l'atteignent pas. Et j'ai vu qu'en fait, il fallait l'orienter au soleil levant. Alors ça, je n'ai pas fait du tout ça.
Tout à fait. Ouais.
C'est très important, ça.
C'est très très important pour deux raisons en fait. Enfin, on va dire deux raisons essentielles. La première, c'est comme une horloge biologique pour les oiseaux. C'est comme pour nous là, avec le réveil, on va dire ça. Hein, mais ça devrait être le soleil pour nous aussi. C'est-à-dire quand le soleil se lève, la journée commence. Donc à l'est, c'est le soleil levant, on est d'accord. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'à l'est, il n'y a jamais de pluie battante, jamais de vent froid, jamais de vent dominant, etc. Donc c'est la face qui risque d'avoir le moins d'intempéries.
Voilà, très simplement. Eh bien voilà, merci beaucoup Gilles Leblay pour ce très beau livre que vous nous laissez. Un régal pour les yeux, une vraie leçon de nature aussi. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « J'accueille et j'observe les oiseaux de mon jardin ». C'est paru aux éditions Terre Vivante, terrevivante.org. Rendez-vous aussi sur notre site fréquenceterre.com pour retrouver cette chronique et ses références.